J'étais frappée par le contraste entre ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on a entendu cet après-midi sur l'appréhension des matériaux, où en fait on le savait, mais je l'avais jamais autant entendu que tout à l'heure, ce qui reste dans l'étape de la marionnette au musée et à la bibliothèque pour la conservation et l'histoire, ce n'est plus que sa visibilité, le primat du visuel, alors que quand on a entendu les marionnettistes ce matin, on a entendu à quel point leur choix du matériau est gouverné aussi par des sensations sonores produites par le matériau, ou une certaine plasticité, une ergonomie, la façon dont un matériau peut prendre une empreinte, la conserver, retrouver sa forme initiale, etc. Et ça, effectivement, c'était moins présent dans les marionnettes traditionnelles qui sont pour l'instant l'essentiel des collections conservées, mais ce problème va se poser de plus en plus. Donc j'avais une question, c'est est-ce que déjà on anticipe les futurs dons de collections qui vont arriver dans les musées et les bibliothèques pour pouvoir, d'une façon ou d'une autre, conserver cet aspect-là du matériau qui fait partie de la marionnette à part entière, de son jeu, de son existence, du choix, de l'origine du choix du matériau. Et d'autre part, le fait que le chercheur n'a pas le droit de toucher, ça limite sacrément sa connaissance de l'objet qu'il doit étudier. Et bien sûr, on comprend complètement les nécessités de conservation. Alors moi, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir voir un peu l'intérieur des marionnettes en préparant pour la BNF des prises de vue des collections Lafaille. Mais sinon, donc, on n'a pas le droit d'y toucher. Sauf que parfois, ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur. On ne sait pas, juste en voyant la marionnette, comment on peut, comment elle fonctionnait, etc. Est-ce qu'il est envisageable, en mettant, bien sûr, en faisant semblant de ne pas savoir qu'il y a des contraintes budgétaires, est-ce qu'il est envisageable de construire, comme par exemple, je crois que ça se fait au musée du Quai Branly, des duplicata, des facsimilés, pour la structure de la marionnette, pour connaître son mécanisme, pour l'avoir fonctionné, parce que ce n'est pas juste une question, même si c'est passionnant, de construction et de mécanique, mais c'est que parfois c'est la seule façon qu'on, c'est la seule trace, le mécanisme, le contrôle qui nous permettent, en l'absence d'autres documents, de savoir quel mouvement effectuait la marionnette, quels étaient ses gestes. Je pense par exemple à deux marionnettes qu'on m'a montrées il n'y a pas très longtemps, où la poupée est parfaitement conservée, conditionnée, etc. Les contrôles, ce sont des fils, ils sont complètement emmêlés, on ne sait plus à quelle partie de la marionnette le fil était rattaché, ni comment ils étaient croisés, etc. Ce qui fait qu'on ne sait pas quelle série de mouvements pouvait effectuer la marionnette. Voilà, donc ça c'est ces deux choses. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui? Travailler avec des chimistes, etc. sur les différentes propriétés autres que visuelles du matériau. Et aussi cette question de pouvoir accéder malgré tout, soit par des comptes rendus de restauration, soit par des facsimilés au mécanisme.
Je donne un élément de réponse, puis je vous... Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la... dans la question, et qu'évidemment, comment dire, ça passe beaucoup par la documentation et l'analyse. C'est-à-dire, le cas exemplaire, c'est ce que nous a montré Violaine. Là, le chercheur, ou à la limite le praticien qui s'intéresse à cet objet, il peut avoir accès à une photo, il peut avoir accès à l'original sans le toucher, mais on peut aussi le sortir pour lui quand même de la boîte, si vraiment c'est la demande est justifiée et importante, et il peut avoir accès au dossier de restauration qui va donc donner un grand nombre d'éléments. C'est vrai qu'on touche la limite, je crois, parce qu'on n'a pas l'équivalent, encore peut-être qu'à Gadagne, mais Simone va nous le dire, il y a déjà beaucoup de dossiers de restauration. Nous, on n'a pas de dossier de restauration pour chacune. Et effectivement, peut-être qu'on pourrait imaginer que dans certains cas, on ait besoin d'aller plus loin que le dossier de restauration pour, je sais pas, savoir quel bois a été utilisé, et là, évidemment, ça demande. Donc, c'est vrai que on peut toujours aller plus loin, mais je pense par le biais de l'analyse chimique, physique, scientifique, on va dire. Après, il y a d'autres. Je pense que ça répond à une partie de la question, mais ça répond peut-être pas à toutes les questions en termes de appréhension de la manipulation. C'est-à-dire peut-être, effectivement, dans ces cas-là, peut-être que il faudrait, donc là, peut-être que la réalité virtuelle, on a eu des débuts de réflexion, puisqu'à la BNF, il y a ce qu'on appelle le labo, qui est un espace à Tolbiac, un lieu dédié aux nouvelles technologies, d'appréhension des connaissances. Et donc, je sais même pas un effet d'annonce, c'est-à-dire qu'on sait même pas si on va le faire, mais dans la discussion avec le responsable du labo, on se disait, effectivement, peut-être que faire une marionnette en 3D et pouvoir la bouger en réalité virtuelle, c'est intéressant. Donc c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue ludique, mais aussi c'est intéressant du point de vue de la recherche, parce que ça veut dire que le chercheur virtuellement pourrait faire bouger une marionnette qui, elle, ne peut plus bouger parce qu'elle est trop fragile. Bon, peut-être que vous avez des compléments à donner.
Alors, sur ce que vous venez de dire, on a eu la même idée et on y a songé, puisque dans les fameux coffres que vous avez vus dans les salles ouvertes au public, on a trois pistes que les visiteurs peuvent consulter. La première piste qu'on a intitulée « Place au spectacle » qui permet aux visiteurs de voir des captations de spectacles, des marionnettes présentes dans la salle. Une deuxième piste qui s'appelle « Comment ça marche ?» où précisément ces éléments de jeu essaient d'être appréhendés et où nous avons envisagé d'éventuellement essayer justement le 3D pour faire des démonstrations donc du jeu des différentes marionnettes. Mais pour répondre à la connaissance de la marionnette elle-même, chaque restauration, effectivement, a fait l'objet d'un rapport détaillé, comme toutes les restaurations dans les musées, puisqu'elles doivent être réversibles, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement ce qu'on a trouvé, ce qui a été fait, et comment défaire ce qui a été fait pendant la restauration. Donc ça, c'est classique de chez classique. Et les quelques photos que je vous avais mises, que je n'ai pas commentées pour des raisons de temps et parce que justement il y avait des restaurateurs plus à même que moi de commenter les dégradations et ce qu'on y fait, si vous voulez, toutes ces photos sont issues des dossiers qui sont en cours de numérisation pour que, sinon numérisés, puisque nous avons exigé dans les dernières restaurations que les restaurateurs nous donnent un rapport qui soit numérisé. Donc tout ça est bien sûr à la disposition des chercheurs. Mais ce que je n'ai pas dit en complément donc de mon intervention, et qui est aussi, à mon avis, important et pour les chercheurs, c'est que un musée de la marionnette ne me semblait pas possible sans une possibilité de jouer. Et je crois que là, le jeu aussi est très très important parce que donc ça nous permet, en fonction là aussi des budgets, des opportunités, je passe sur les contingences multiples et variées, mais ça permet aussi d'avoir un contact direct avec le vrai spectacle, le spectacle vivant, qui est forcément la base d'un musée du théâtre.
J'ajouterai, avant de donner la parole à mon voisin, qu'il ne faut pas négliger ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Véronique, mais ce que dirait aussi bien Simone Blasi, c'est le reste de la documentation. C'est-à-dire que la marionnette est aussi documentée par éventuellement des maquettes préparatoires qui donnent des éléments, des photos prises du spectacle ou des coulisses. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est à nos amis marionnettistes, c'est n'oubliez pas de conserver des traces de votre travail, aussi bien des spectacles eux-mêmes que des éléments qui pourraient aider à comprendre la fabrication des marionnettes et même leur manipulation dans le détail. Donc c'est vrai que par contre il y a enfin donc ça pose la question de, aussi de la notation, enfin c'est des problématiques larges. Je pense que on raisonne quand même, et c'est notre discours et va dans le même sens, encore pas beaucoup sur les nouvelles matières. C'est-à-dire malgré tout, les crafts dont nous parlait Philippe Gentil ce matin, oui, mais ça nous posera quand même des problèmes. Et de même que je pensais à Émilie Valentin a finalement renoncé à venir, mais souvenez-vous qu'elle avait fait un spectacle avec des marionnettes en glace. Voilà. Enfin, on peut avoir un congélateur, hein, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Je vous laisse la parole
avant de prendre une autre question.
Merci beaucoup. En fait, il y a deux choses. D'abord, pour la question du dossier de la restauration, je suis vraiment content, d'abord, que cela existe, et ensuite, que cela soit communicable. Parce que j'ai eu une expérience très désagréable à Londres, dans un très grand musée, où j'ai demandé le dossier de restauration, et on en a défendu la communication. Donc, je suis très heureux que cela ne soit pas le cas ici. Maintenant, pour le moment, je voudrais parler en marionnettiste autant qu'en chercheur. Parce que, franchement, on a parlé de la marionnette virtuelle. Moi, j'aime bien sentir une marionnette dans la main. J'ai même eu le grand plaisir, il y a 2 ans, à Rome, de mettre sur la main la marionnette, le Pulcinella di Catenaccio, le célèbre joueur des années 1820 à Rome. Vraiment, c'était un moment merveilleux de sentir cette marionnette sur la main. Mais j'avais de la chance. Mais, pour la question des reproductions de marionnettes, en fait, il y a déjà des marionnettes, des musées qui font cela. Par exemple, à Anvers, je crois que c'est le musée ethnologique qui a pris en charge aussi l'ancien théâtre du Reppenstraat. Et là, il faisait d'abord des spectacles avec les vieilles marionnettes, mais comme ces marionnettes d'Anvers s'assomment de coups de gourdin tout le temps, et ils ont tous des nez en cuir parce que le bois s'était déjà cassé, au bout d'un certain temps, on a commencé à les remplacer avec des reproductions. Un autre cas de cela, pas un musée cette fois-ci, c'est une collection au Portugal, dans la ville d'Évora. Il y a une collection de marionnettes du milieu du 19e siècle, des marionnettes religieuses, qui s'appellent les Bonecos de Sant'Aleixo. Ces marionnettes qui jouaient avec quelqu'un qui était un vieux pasteur, en fait, mais qui n'est pas pasteur, c'est un shepherd.
Curie.
Non, c'est là où je me trompais. Un berger, excusez-moi. Je pensais au bon pasteur. Non, mais de toute façon, lui jouait jusqu'aux années 70. Et après, c'est le théâtre de la ville, le théâtre Garcia Resende, qui a pris en charge ces marionnettes. Ils ont fait refaire des reproductions. Et en fait, c'est une troupe que beaucoup d'entre vous ont pu voir, peut-être, parce qu'ils circulent beaucoup dans les festivals de la marionnette, aux Bonecos de Sant'Aleixo. Dans ce cas-là, on essaie de refaire les spectacles. Qui ont, d'abord, aussi, c'est la transmission orale, parce qu'il n'existait plus de texte. Donc, c'est ce vieux berger qui peu à peu, en le payant, en lui donnant quelque chose à boire, qui transmettait ces textes qu'on notait furieusement. Alors, mais là, encore, vous avez la possibilité d'avoir des reproductions qui jouent, tandis que les originales restent au musée.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un intervenant inconnu, anonyme, dans la salle.
Oui, je voulais dire qu'il y avait certaines marionnettes qui ne pouvaient pas être conservées. Vous avez parlé des marionnettes d'Émilie Valentin en glace. J'ai dans la collection Légende pour un trou de des Monestiers, du théâtre sur le fil. Qu'est-ce qu'on peut exposer une feuille de Bristol avec la silhouette d'un petit bonhomme et puis le petit bonhomme à côté? Ça ne dit absolument rien sur le spectacle. Or, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait des budgets pour capter les spectacles. Parce qu'effectivement, numériser des bestioles, bon, c'est bien, mais si on voit, si au moins on a un aspect du spectacle, et voir comment c'était bidouillé, c'était animé, on donnait vie à ces bestioles-là, ça serait intéressant. Alors, pour mon compte et avec mon compagnon Houdard, on a produit il y a quelques années 25 émissions de plus de 50 minutes qui s'appelaient Voyage au pays de la marionnette et qui prenaient en compte toutes les techniques de, enfin un grand nombre de techniques de manipulation. L'émission était construite soit une démonstration que je faisais sur la fabrication avec des matériaux, soit un reportage sur un fabricant, sur un facteur de marionnette, et il y avait un reportage sur une troupe qui utilisait la technique. Donc on a engrangé, et c'est à l'INA, donc c'est disponible, j'imagine, pour vous, musée, de récupérer ces documents qui montrent justement des marionnettes en action. Et la captation des spectacles me paraît quelque chose de très important. D'autant qu'on va voir la 3D, il est question de ça, donc on sera à l'intérieur même des marionnettes, ça sera fabuleux.
Il faut voir aussi que chaque marionnettiste... Il faut aussi considérer que chaque marionnettiste a ses petites combines personnelles. On ne peut pas avoir des systèmes de manipulation standard. On peut montrer en gros ce que c'est qu'une marionnette à fil, ce que c'est qu'une marionnette à gaine, mais on ne peut pas imaginer ce que le marionnettiste en a fait et les trouvailles qu'il aura et les améliorations qu'il aura pu lui donner.
L'idée, je crois que enfin, l'expression est peut-être mal choisie dans une bibliothèque, mais c'est de faire feu de tout bois. Et donc, d'employer tous les moyens possibles, c'est-à-dire que...
On peut donner une image standard d'une manipulation d'une sorte de marionnette, mais on ne peut pas se mettre à la place du marionnettiste qui, lui, a inventé quelque chose, une petite trouvaille à lui, qui donne justement sa marionnette, sa particularité et son charme.
Je pense que dans certains cas, enfin peut-être que voilà, dans certains cas, le cadre standard répond quand même à une partie de la question. Et ensuite, c'est justement ces recherches multiples, effectivement, à travers des notes diverses, qui sont des notes techniques, des notations liées au déroulement du spectacle, des captations, parce qu'évidemment, je pense que c'est quand même un outil essentiel. Et l'idéal serait d'avoir des captations, mais là, je pense que les budgets de nos ministères n'y suffiraient pas, mais des captations, je pense, du spectacle et des captations des coulisses. Parce que si l'objectif, c'est bien de comprendre de comment on manipulait et comment se déroulait le spectacle. Donc, ça peut être complexe. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on peut espérer, si on focalise sur un spectacle ou un marionnettiste, aller comprendre. Non, peut-être pas dénicher son âme, mais en tout cas, aller jusque dans ces petits secrets de fabrication, dans certains cas, je pense qu'on peut arriver à les trouver.
Oui, je continuerai bien à rêver un petit peu sur ce que vient de proposer Joël. On dirait qu'on n'aurait pas de limitation de budget, on dirait qu'on n'aurait pas de limitation de place, on dirait qu'on n'aurait pas tout ça. Et du coup, on pourrait créer, en plus de ces dossiers de restauration qu'on met, même si je sais que nos collègues des musées ne le font pas toujours, que l'on met à disposition des chercheurs, on aurait ce que j'appellerais un dossier d'œuvre. Un dossier de l'œuvre, petite marionnette, mais aussi spectacle, mais aussi marionnettiste, mais aussi la compagnie, mais aussi finalement un petit peu l'histoire de la marionnette. Donc on pourrait avoir tout ça, on pourrait avoir les plans de la conception, on pourrait de la marionnette, on pourrait avoir des échantillons des différents matériaux utilisés, pourquoi pas des films montrant comment on a martelé ou comment on a découpé ou comment on a brûlé ou je ne sais quoi pour fabriquer cette marionnette, montrant aussi comment on a fait les répétitions, qui on avait. Pourquoi est-ce que, alors qu'on utilisait, je ne sais pas, le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, d'un seul coup, non, on est passé à Dvorak, parce qu'on préférait. Comment est-ce que finalement, sur scène, on a présenté ce spectacle? Comment on le manipule? Comment est-ce qu'en coulisses ça se passe? Comment est-ce qu'on fait aussi après le spectacle? Dans ces cas-là, on peut imaginer des tas de choses. Je voudrais juste faire un parallèle avec ce qui se passe dans certains musées, je pense à des musées de sciences et techniques. Je vous donne un exemple précis. Aux arts et métiers, il y a celle qu'on appelle la Pascaline, qui est la machine à calculer de Pascal, de Blaise Pascal. Objet extrêmement documenté, qui a été étudié, radiographié, démonté, restauré, re-restauré, qui a été étudié sous toutes les coutures, de toutes les manières. Qui a fait l'objet de restitutions en 3D. Et lorsque le musée des arts et métiers a rouvert en mars 2000, ils ont hésité un peu, puis finalement ils ont fait fabriquer un fac-similé, même plusieurs je crois, de cette Pascaline. Et curieusement, ce sont ces fac-similés que les uns et les autres, petits et grands d'ailleurs, et même très grands, voire très vieux, vont tripatouiller plutôt que les restitutions en 3D. Pourquoi ? Ben pour reprendre l'expression de Raphaël, parce qu'aussi on a besoin de toucher cet objet. Et si on le touche, on le comprend mieux. Et je repense à un jour où j'étais à côté de ce fac-similé, un mouflet qui devait avoir 6 ans, qui avait à peu près le nez à la hauteur de la table, qui dit « Ah, mais je vois les roues tourner !» Alors du coup, les grands-parents se sont penchés, les parents aussi. « Ah ben oui, c'est des roues qui tournent, ah ben oui, c'est des engrenages. » Et ça leur a... je dirais, permis de comprendre mieux l'objet, où ils se le sont beaucoup plus appropriés qu'avec la restitution 3D qui pourtant leur expliquait ça extrêmement bien. Voilà, donc, oui, je veux bien, on va... Alors, ok, on fait tout ça, et puis on fait des exemplaires de manipulation de marionnettes. Alors, peut-être pas avec le perfectionnement et la patte de chaque marionnettiste, mais au moins on aura déjà les grands principes. Donc on pourra après, et ce sera le travail des chercheurs, voir ce qui fait l'étincelle propre à chacun. Merci.
Avec le
BAM,
on s'occupe des dossiers documentaires, et puis à la BNF, vous faites les
fac-similés.
C'est ça.
On n'a pas les ateliers, mais on pourrait essayer. Alors, peut-être Daniel. Daniel, il y a aussi, plusieurs...
Non, c'est pour savoir si vous recevez beaucoup de propositions. Ça m'a fait froid dans le dos, cette restauration de la marionnette qu'on a vue. Ça a demandé des années de travail, etc. On se dit, mais c'est pas possible, enfin, on peut pas se lancer là-dedans. Enfin, si, c'est un merveilleux travail d'école, etc. Mais se dire que cette marionnette, puis je dis, oh, elle est que du 19e, qu'est-ce que ça doit être les autres? Mais est-ce que vous recevez beaucoup de propositions de dons, de legs ou de ventes de marionnettes? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, parce que vous avez parlé de place et tout ça, si tous les marionnettistes qui sont ici décidaient de donner leur marionnette ancienne formule à la Bibliothèque nationale, ça serait un sacré problème. Et est-ce que vous intervenez en dehors de la Bibliothèque nationale pour, j'allais dire, apporter vos compétences? Par exemple, je pense à l'exposition de marionnettes de Georges Sand à Nohant. Est-ce que vous êtes intervenu sur la présentation, sur la conservation? Parce que toutes les marionnettes de Georges Sand sont là. Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a donné son avis? Comment ça s'est passé? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas d'informations là-dessus?
Alors, ce que je peux dire rapidement, je pense que ce soit le musée Gadagne ou la Bibliothèque nationale de France, on reçoit des propositions de dons. Ça nous arrive. On a différents niveaux, en tout cas pour la BN, de collecte de la mémoire de la marionnette. Et pour aller vite, on collecte déjà de la documentation, c'est-à-dire en dehors des objets, les programmes, tout ce qui vient des compagnies de manière très très régulière, et éventuellement des photos. Donc ça se limite pas, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est bien de le rappeler, aux objets marionnettes. Ensuite, on vient de citer le dernier fonds important qui est entré, c'est le fonds Ouda Reclin. Donc il y a pour la BNF des dons assez réguliers et exceptionnellement des achats. Je dirais que moi je préfère avoir mais je pense que vous seriez d'accord, à gérer la surabondance. Je trouve que après après, on trouvera toujours on se roulera par terre pour avoir de la place, mais enfin, on se débrouillera. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas certaines limites. C'est vrai dans le domaine de la marionnette comme dans le domaine du théâtre. La limite est souvent dans les décors. Alors, un Castelet, ça va, mais quand on atteint des très grandes tailles ou des très gros volumes, alors c'est encore plus vrai dans le domaine du spectacle. Maintenant, il y a le Centre national du costume de scène et la scénographie à Moulins, qui a une capacité qui est loin d'être extensive aussi de conserver quelques éléments de décor, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours très outillé. Je dirais simplement aussi une chose, c'est que c'est en dialoguant avec les donateurs artistes, on peut aussi faire une sélection. C'est-à-dire, eux-mêmes sont souvent les meilleurs connaisseurs de leur œuvre, et ils peuvent dire, ça c'est pas un spectacle, dans ce spectacle, faut garder ces deux pièces-là. Vous avez déjà ce qui est emblématique, ou tel spectacle, il ne faut pas que vous loupiez parce que c'était un moment important de ma carrière, etc. Et ça peut permettre effectivement quand même de nuancer le tout conservé, qui est parfois difficile à atteindre. Hein. Peut-être vous voulez.
Oui. Si vous me le permettez, je rajouterai juste, parce que je partage là totalement ce que vous avez dit, parce que pour nous, tout conserver, c'est un risque de tout perdre. Et on a aussi des capacités, il faut le dire, limitées si on veut assurer une véritable conservation, avec la possibilité de retransmettre. Parce que si on conserve, que tout devient inaccessible et que la masse fait qu'on n'arrive pas à la traiter, je veux dire, on va droit dans le mur aussi, quelque part en fait. Donc, pour moi, il est très important, et je le disais à Strasbourg et je le redisais tout à l'heure en aparté, qu'il y ait une véritable collecte systématique. Normalement, c'est notre rôle, en tout cas au musée. Enfin, pour vous, c'est la même chose. On le voit à travers ce que vous faites aussi au centre de documentation. Donc, une véritable collecte. Mais pour moi, je la vois tripartite. C'est-à-dire l'artiste qui va nous dire effectivement si tel ou tel spectacle est fondamental pour lui dans sa création, soit par son originalité, soit parce qu'au contraire il représente son œuvre dans sa totalité, enfin bref, donc il y a un dialogue avec l'artiste indispensable, et avec toute la documentation et avec, j'allais dire, tous les interviews qu'on peut faire sur la façon dont il travaille. Mais donc l'œil du conservateur, parce que nous avons à gérer des contraintes à la fois matérielles, de public, de conservation, etc. Mais j'ajouterais le chercheur, et on le voit à cette table, chacun a un regard intéressant. Alors, est-ce parce que je suis historienne, mais il me semble que lorsque nous conservons les traces d'un théâtre de marionnettes, de création marionnettique, nous sommes en train de saisir un instant de culture, une histoire du théâtre, et par conséquent, il est intéressant que le chercheur aussi intervienne pour dire ce qui, dans l'histoire culturelle générale, dans l'histoire théâtrale, est intéressant à conserver absolument dans telle ou telle œuvre de telle compagnie, de tel artiste. Voilà. Pour moi, si je puis me permettre, cette collecte tripartite et raisonnée me semble absolument indispensable pour arriver justement à une collecte qui soit gérable.
Alors, on va peut-être. Il y avait une question là, au fond, et puis. Je vais peut-être vous proposer de prendre la question de madame, et puis après laisser la parole peut-être à Didier Plassard et Michael Meschke pour un temps de synthèse. Et ensuite, parce qu'il y a je sais qu'il y a des gens qui doivent partir, on pourra garder encore un quart d'heure, 20 minutes pour des questions complémentaires auxquelles chacun d'entre nous sera prêt à répondre. Alors, madame, je vous laisse la parole pour une question.
Oui. Il y a quelques années, j'avais imaginé un projet dans un musée qui s'appelle La Fabuloserie, et que j'avais baptisé, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour, hein, donc qui s'appelait, que j'avais baptisé le musée agité. Et l'idée, c'était de donner vie à différentes, c'est pas vraiment des marionnettes, mais une série d'objets qui étaient dotés de mécanismes d'articulation, et de les faire vivre grâce à des marionnettistes. Ça n'a pas vu le jour parce que, ben, faute de moyens, on n'a pas trouvé les financements pour y parvenir. Mais en tout cas, au niveau de ce musée, de la fabuloserie, de la directrice du lieu et de ses œuvres d'art brut, c'était imaginable dans les conditions d'exposition et voilà le mode d'exposition de ces objets dans ce musée-là. C'était imaginable par la directrice de... qu'on touche à ces objets, qu'on les réanime le temps d'une visite guidée, etc. Donc je me demandais si c'était... je rêve avec vous sur les façons de présenter au public les marionnettes, au-delà de la conservation, enfin au-delà du souci de la conservation que vous nous avez exposé, les montrer dans leur plus beau spectacle. Est-ce que ce serait imaginable de les faire revivre le rôle de leur vie en confiant à des marionnettistes spécialistes de telle ou telle, enfin, ou en tout cas très intéressés par telle ou telle œuvre de telle compagnie, de leur refaire vivre leur plus beau spectacle un jour, de le filmer, et puis après, du coup, qu'il y ait ce moyen de faire comprendre la marionnette exposée, pas seulement au moyen des documents dont vous parliez tout à l'heure, qui retracerait toute la vie et l'œuvre des artistes, mais au moyen d'un document vidéo qui serait le film d'un spectacle qu'ils auraient fait, donc ressusciter un moment. Est-ce que c'est quelque chose, au-delà des problèmes d'argent, en imaginant qu'il n'y ait évidemment pas de problème de financement, est-ce qu'on peut, après toute cette logique que vous nous avez expliquée, ces moyens, ces nettoyages, ces dépoussiérages, ces décontaminations, etc., ces quasi-momifications des marionnettes, est-ce que c'est possible à un moment de les sortir des tiroirs et voilà, de les toucher, de les faire vivre de...
Enfin, disons qu'on, enfin là, c'est vrai qu'on rejoint ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire il y a certaines marionnettes qui ne le permettent pas pour des raisons simplement de fragilité, c'est-à-dire si on les fait jouer 10 minutes, elles tombent en poussière. On n'a pas forcément non plus tous les éléments. C'est-à-dire, parfois on en a, mais parfois on les a pas. Moi, je crois plutôt en termes de traces audiovisuelles. C'est ce que vous visez à ce que disait tout à l'heure Marcel Violette, c'est que il vaut mieux essayer de capter les spectacles pendant qu'ils se font, parce que la reconstitution, elle peut avoir son intérêt, mais elle a quand même aussi sa fragilité, parce que reconstituer un spectacle d'il y a 10 ans, bon, à la limite on va trouver les témoins, mais d'il y a 30 ans, ça sera déjà plus difficile, et du siècle dernier, c'est un beau jeu, enfin, mais pour moi c'est une recréation, c'est-à-dire il y a vraiment quand même, enfin vous en parleriez mieux que moi, il y a vraiment un projet en soi qui peut-être rejoint ce que vous aviez proposé à l'époque à la Fabuloserie, mais voilà, c'est un nouveau travail de création, et je pense qu'on s'éloigne un petit peu, en tout cas de ce qui est nos missions à nous, de préserver au maximum déjà ce qui existe, et éventuellement de susciter des captations, de manière à avoir une trace des spectacles tels qu'ils vivent. Voilà. Je vous propose de laisser la parole à nos deux synthétiseurs.